Bonjour chers auditeurs. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. En Israël, les ennuis du nouveau gouvernement Netanyahou Ben-Gvir commencent. En effet, 80 000 citoyens se sont rassemblés à Tel Aviv pour protester pacifiquement contre le projet de réforme de la justice. Au même moment, d'autres manifestaient à Jérusalem et à Haïfa. En tout, il y a eu 100 000 protestataires. Sur 9 millions d'habitants, cela représente plus ou moins 1% de la population. C'est beaucoup et c'est quand même rare. D'autant qu'au même moment, des juges, des avocats, des procureurs d'État et l'ensemble des membres de la Cour suprême d'Israël s'exprimaient vivement contre les changements prévus par le projet de loi de Yariv Levin, le ministre de la Justice. Pourquoi une telle mobilisation contre cette réforme? Après tout, le gouvernement de Netanyahou vient d'être légitimement élu sur la base d'un programme connu. Le pouvoir explique. La réforme fera à nouveau d'Israël une démocratie occidentale qui fonctionne. Les opposants déclarent « Le nouveau projet ne vise pas à améliorer le système judiciaire, mais à l'écraser. » Qu'en est-il vraiment? Quels sont les enjeux institutionnels et politiques de cet affrontement? Nous allons demander à Claude Klein de nous éclairer. Claude Klein est diplômé d'études supérieures en droit public et en sciences politiques. Ancien doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem, il a présidé l'Israeli Association for Public Law de 1995 à 2000. Claude Klein a aussi enseigné dans les universités françaises et américaines et publié des ouvrages consacrés à la théorie du droit, au sionisme et à l'histoire d'Israël. Vous m'entendez, Claude Klein?
Je vous entends, bonjour.
Bonjour, bonjour, Claude Klein. Content d'être avec vous. Est-ce que j'ai été correct dans la présentation de votre CV?
Oui, tout à fait. Bah, voilà. Une carrière classique de professeur de droit. Quoi.
Voilà, très bien. Alors,
qui a fait son alia en 1968.
Voilà, après la guerre des six jours, mais vous avez aussi été doyen de l'université de droit, donc vous savez de quoi vous parlez.
Oui.
Voilà. Donc, monsieur le doyen, vous savez qu'en France, quand on présente une réforme de la justice, ça ne mobilise que les magistrats et les fonctionnaires. Voilà. Et puis en Israël, ça mobilise les citoyens. Il y en a eu 100 000 dans la rue qui ont manifesté contre le projet porté par Yariv Levin. Alors expliquez-nous, Claude Klein, quel est le contenu de cette réforme et pourquoi elle suscite une telle passion? Est-ce qu'il y a des changements fondamentaux qui impacteraient les libertés individuelles dans ce nouveau projet de loi?
Oui, alors là, je suis tout à fait clair à ce sujet. Cette réforme, qui comporte plusieurs volets dont on aura peut-être le temps de parler, elle implique ou elle représente une réforme non pas seulement du système judiciaire, mais de l'ensemble du système politique d'Israël. Et ceci pour la raison suivante, c'est que jusqu'à présent, en tout cas depuis 1995, Israël était devenu un pays semblable aux démocraties occidentales dans lesquelles il existe un contrôle de la Knesset. Or, ce contrôle le gouvernement, la majorité actuelle, veut l'abolir, et non seulement l'abolir, c'est-à-dire permettre de surmonter une déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi, mais pour être bien sûr que cela ne se pratique pas, eh bien, il est question de modifier complètement le mode de nomination des juges à la Cour suprême et de remettre la nomination aux politiques, et purement et simplement.
Donc c'est un changement, c'est pas un projet de loi comme ça, c'est vraiment un changement structurel, quasiment un changement de régime, disent certains.
Ah oui, je suis, oui. Alors, il faut bien comprendre, je dirais simplement une chose, non pas en faveur du projet qui est présenté, mais pour expliquer, pour comprendre, c'est que la Cour suprême, depuis les années 60, milieu des années 60, les années 70, a pris beaucoup de place dans la vie publique de ce pays. Non seulement, comme je l'ai dit plus tard en 95, elle a décidé que les lois fondamentales étaient comme une constitution, mais la Cour suprême, sous la présidence de d'Aaron Barak, mon ancien collègue à la faculté, intervient de plus en plus directement dans des décisions gouvernementales et dans ce qui apparaît parfois comme étant des décisions politiques. C'est ce qu'on appelle en France, dans le système de droit français, cela s'appelle des actes de gouvernement. Et ici, on utilise un terme anglais, justiciability, c'est-à-dire des actes qui, par leur nature étant politiques, ne devraient pas être faire l'objet d'un contrôle de la Cour. Alors, il est arrivé, je suis prêt à le reconnaître, que la Cour soit allée parfois un peu loin dans sa volonté de contrôler. Mais cela ne justifie en aucun cas cette réforme que j'appellerais plutôt une sorte de coup d'État constitutionnel que la majorité au pouvoir depuis 2 mois veut réaliser.
Vous dites coup d'État constitutionnel, mais c'est une expression extrêmement forte, parce que quand même le gouvernement de Netanyahou, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été élu d'une manière légitime. Personne ne conteste les résultats des élections ou la manière dont ça s'est passé.
Donc, personne ne le conteste. Je suis prêt à dire que je regrette ce résultat, mais non, je ne le conteste pas. Les élections en Israël sont des élections libres et personne ne vient contester la victoire. En tout cas, ce n'était pas une véritable victoire, puisque tout s'est joué à quelques milliers de voix près. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous aviez en France à l'heure actuelle un changement de régime, un changement de régime politique, c'est-à-dire qu'une autre majorité arrive au pouvoir légitimement, cela ne justifie pas un changement total de régime politique. Pour cela, il faut un accord de l'opposition en général. C'est pourquoi en France, pour changer de constitution, il faut soit, comme vous le savez, un référendum, soit une majorité particulière dans les deux chambres réunies en congrès. Alors ici, ce qu'on veut faire, c'est que tout se fasse à la majorité simple de 61 voix, c'est le chiffre magique, puisque la Knesset compte 120 députés. La majorité actuelle est de 64 voix, donc avec ce petit chiffre, ils veulent absolument tout modifier. Je crois que c'est là le nœud du problème.
Mais alors, pourquoi cette volonté de changer le système législatif israélien? Il ne fonctionne pas bien, il y a urgence de le changer. Pourquoi d'un seul coup, le Likoud et ses alliés veulent modifier entre guillemets, la constitution d'Israël, en fait,
constitution. Il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Il y a d'une part l'alliance qui existe entre le Likoud et ses autres partenaires, qui sont tous des partis religieux, y compris 14 députés ultra-orthodoxes, et qui veulent donc obtenir une plus grande part du gâteau, qui serait certainement annulé par la Cour suprême. Par ailleurs, il y a un certain nombre de dispositions sur le régime, sur la vie des citoyens, où l'on irait beaucoup plus, je dirais, à droite. Et enfin, je voudrais quand même, si vous voulez, comme on dit l'expression « il y a un éléphant dans la pièce », c'est une expression qui est utilisée dans plusieurs langues, c'est-à-dire que le procès qui est intenté actuellement à Netanyahou, qui se déroule déjà depuis 1 an et demi, n'est pas complètement étranger, puisque selon des mauvaises langues, Monsieur Netanyahou, poussé par Yariv Levin, voudrait mettre obtenir un droit de regard sur les juges, non pas qui le jugent actuellement, puisque ceux-là, on ne peut plus y toucher, mais en tout cas sur ceux qui auront le pouvoir de le juger en appel, puisque certainement, il y aura un appel s'il est condamné.
Claude Klein, est-ce que si le projet de réforme passe, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de contre-pouvoir à l'exécutif, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette séparation des pouvoirs si chère aux démocraties et aux pères fondateurs qui est un sacro-saint, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire?
Alors d'abord, je voudrais faire une remarque, ou plutôt lancer quelque chose, c'est que il faudrait voir comment cette réforme va se faire, car il n'est pas impossible que la Cour suprême s'empare de la réforme et l'annule, et qu'on entre alors dans une période de conflit entre les pouvoirs, dont on ne sait pas où elle pourrait mener.
Mais un conflit entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
Oui, le pouvoir judiciaire, par exemple, pourrait annuler un certain nombre de dispositions en disant qu'elles sont contraires à l'esprit de nos lois. Je voudrais fait remarquer à ce sujet qu'il y a une tendance moderne dans le monde entier à ce que là où il y a un contrôle de constitutionnalité, non seulement il y a un contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, mais il peut y avoir un contrôle de constitutionnalité des amendements à la Constitution. Ça existe en Allemagne, ça existe en Inde, et ça se développe un peu partout. L'air de dire, si vous voulez, on dit non, vous ne pouvez pas toucher à tout. Si vous voulez toucher à tout, alors c'est la révolution. Mais vous ne pouvez pas toucher à ce qui fait l'essence de notre régime en dire que vous le faites en vertu même des lois de ce régime. C'est pourquoi on va peut-être vers un conflit. Alors par ailleurs, aujourd'hui même d'ailleurs, les premières discussions ont commencé à la Knesset au sein de la commission spécialisée qui s'appelle la commission de la Constitution et des lois, et il est possible que le gouvernement accepte un certain nombre de rectifications qui pourraient empêcher que cela dégénère en un bras de fer total. Par exemple, le gouvernement pourrait accepter qu'il n'y ait pas une majorité aussi large de politiciens dans le mode de nomination des juges. Le gouvernement pourrait vraiment accepter que on puisse contourner la déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi, que la Knesset puisse le faire, mais non pas la majorité de 61, puisque ça c'est une majorité automatique forcément, c'est la majorité de la coalition, mais en montant à 65 ou à 70. Là, ce sont des éléments qui sont lancés dans les discussions et qui pourraient peut-être permettre de modérer un peu la crise qui se dessine.
D'accord. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont descendus dans la rue, c'est quand même pas mal de personnes, hein, 80, 100 000 personnes.
Sous une pluie battante, je vous le signale.
Oui, avec les parapluies, là, on les a vus. Oui. Est-ce que vous pensez que ce qui les anime, c'est surtout une crainte pour le système démocratique israélien?
Ah, j'en suis absolument persuadé, et je suis persuadé que ce samedi qui vient, il y aura de nouvelles manifestations. Je me lance un peu, et je dirais qu'il y aura encore plus de monde.
D'accord. Donc vous sentez qu'il y a vraiment... est-ce que c'est vraiment une manifestation contre la réforme de la justice avec les tenants et les aboutissants que vous venez de nous expliquer, ou est-ce que c'est vraiment plutôt les opposants de Netanyahou qui descendent dans la rue?
Il y a les deux. Et il y a tellement les deux que à la manifestation qui aura lieu samedi prochain à Tel Aviv, elle aura lieu en deux endroits différents. L'un où se concentreraient les manifestants contre Netanyahou, plutôt contre Netanyahou, ou surtout contre Netanyahou, et l'autre, les manifestants contre le projet de modification des lois.
Ah d'accord. Alors maintenant, je voulais vous demander... vous qui êtes professeur de droit, qui connaissez bien le droit en Israël, qui vivez ça de très près, comment vous expliquez cette espèce de de haine, mais de vraiment, il y a quelque chose contre la Cour suprême depuis des années, vous voyez, c'est tous des gauchistes, la Cour suprême, ils sont sionistes, ils sont si, comment vous, il y a une espèce de haine vis-à-vis de la Cour suprême, comment vous l'expliquez, c'est quand même incroyable, quoi.
Oui, ben écoutez, je crois que tout simplement, la Cour suprême a mis très souvent les points sur les i en disant, ben, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire, que ce soit en ce qui concerne les libertés individuelles ou que ce soit sur le plan politique. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a toujours paru extrêmement frappant. Vous vous souvenez sans doute vous savez, qu'on a construit un mur, ou plutôt une clôture qui sépare Israël des territoires de la Cisjordanie pour éviter les incursions.
Oui.
Voilà. Eh bien, une association de droits de l'homme est venue plaider devant la Cour suprême que le tracé de ce mur n'était pas conforme au droit international. Pourquoi ? Parce que ce tracé empiétait sur la ligne verte, c'est-à-dire ce qui était la frontière entre Israël et la Cisjordanie, et surtout causait des dommages, des dégâts aux paysans palestiniens de Cisjordanie. Eh bien, des dégâts au-delà de ce qu'il est possible d'accepter, c'est la fameuse thèse de ce qui est raisonnable ou non. Eh bien, vous savez peut-être, je vous l'indique, la Cour a accepté et a déclaré que le tracé sur un certain nombre de kilomètres était contraire au droit international et le gouvernement a dû refaire ce tracé. Alors ça a provoqué un tollé incroyable. Et il est vrai qu'on voit assez difficilement dans d'autres pays une Cour suprême, un tribunal, le Conseil d'État en France intervenir dans ce genre de questions, mais c'est simplement un exemple que je voulais vous donner.
D'accord. Ce que je voulais vous demander également, c'est, là il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on nous répond dans deux minutes, qu'est-ce qui pourrait arrêter, empêcher que cette réforme se mette en place ? En dehors de nouvelles élections, évidemment.
Oui, alors je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles élections dans un temps rapproché. Simplement, je crois que la seule personne qui puisse arrêter un peu que cette réforme aille trop loin, c'est Netanyahou lui-même. À l'origine, ce n'est pas lui qui lançait l'idée, c'est Yariv Levin, qui, il faut le reconnaître, avait lancé cette idée déjà il y a une quinzaine d'années. Je le regrette d'autant plus que c'est un de mes anciens étudiants. Enfin, ça n'a rien à voir. Et il avait lancé cette idée il y a déjà une quinzaine d'années, sans aucun rapport avec le procès. Et Netanyahou se rend compte, parfois, que les réactions aussi bien internes qu'internationales peuvent être très difficiles. Mais il faudra faire extrêmement attention. Le gouvernement fera peut-être dans les quelques semaines à venir un certain nombre de concessions, mais elles seront minimales.
Eh bien, très bien. Nous sommes arrivés au bout de notre temps. Merci d'avoir participé à notre émission, Claude Klein, et d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Radio Shalom, si vous voulez bien, on continuera un peu avec vous à suivre cette affaire.
Très bien.
Bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Ouzimi-Hersen à l'antenne avec Chronique pour la paix.
Au revoir.
Au revoir, Claude Klein. Shalom.